direct du salon du jeu de société de Paris, notre envoyé spécial vous ramène un bon podcast.
Bien, bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Jérôme Rigal, qui est l'auteur d'un jeu qui est encore sous forme de prototype sur le stand de Taekonyu, enfin sur la société d'édition Taekonyu, qui est Bugs War. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bugs War, c'est ton premier jeu, ton premier jeu de plateau.
Alors oui, c'est mon premier jeu en tant qu'auteur indépendant. J'ai travaillé longtemps, j'ai commencé dans le jeu vidéo, ensuite le jeu de figurines. J'ai développé quelques concepts de jeux de plateau, mais c'est vraiment le premier qui va être réalisé, édité.
En tant que c'est ma création.
Voilà.
Ok, Bugs War, c'est une histoire d'insectes, puisqu'on parle de bugs. Et comme c'est chez Taekonyu, c'est un jeu qui sera avec des figurines. Mais ça ne donne rien comme idée sur le jeu. Donc est-ce qu'on peut passer sur le matériel et sur les mécanismes qui sont mis en place?
Ah, tout à fait. Donc comme tu l'as dit, c'est un jeu de figurines. On peut assimiler ça un peu à un risk-like, concept des figurines, c'est-à-dire qu'on a quatre camps, enfin c'est jouable à quatre joueurs, mais il n'y a aucune différenciation entre les différents camps, tout le monde a les mêmes ressources et les mêmes figurines. Il y aura donc des figurines de bugs qui sont des insectes mutants un peu aliens, des figurines de ce qu'on appelle des couveuses qui sont les bâtiments qui produisent les bugs, des figurines de gisements, de ressources, plus un plateau. Alors en fait là le plateau du proto est imprimé sur un poster, mais au final il sera réalisé sur des dalles amovibles qui permettront d'avoir une infinité de plateaux possibles. Donc on fournira évidemment tout un tas de schémas de déploiement, de scénarios de déploiement, mais les joueurs pourront réaliser les leurs à l'envi, et même si deux joueurs ont chacun une boîte, ils pourront mixer les plateaux pour faire des plateaux encore plus grands.
L'idée, c'est d'aller vers une logique de scénario aussi ?
Pas réellement de scénario, disons qu'on va avoir des objectifs, des sous-objectifs à atteindre. Mais non, ce ne sera pas réellement scénarisé comme peut l'être, par exemple, Tannhauser.
Et donc, on a des figurines, pour l'instant, ce sont des tuiles, c'est un prototype, mais on a des figurines d'insectes. Mais on a, donc de gisements, de couveuses, on a aussi des cartes.
Alors les cartes servent uniquement d'aide mémoire, dans la mesure où on y trouve les caractéristiques des couveuses et des bugs qu'elles produisent. Et en fait l'intérêt des cartes, c'est que les couveuses peuvent évoluer au cours de la partie. Donc leurs caractéristiques propres évoluent, c'est-à-dire le nombre de bugs qu'elles peuvent pondre au cours d'un tour, leur résistance, etc.
Est-ce qu'on peut attaquer ces couveuses pour les prendre pour soi ?
Et également, elles donnent les valeurs, les caractéristiques des bugs, qui évidemment augmentent plus la couveuse. En fait, je me suis inspiré, parce que je suis un grand fan de RTS sur PC, donc là, en fait, mes inspirations, c'est, on va dire, au niveau jeu plateau, c'est Full Metal Planet, et en RTS, c'est du StarCraft, quoi, parce que j'avais envie d'un peu le retrouver, l'esprit Zerg, voilà.
Le RTS, qui est ?
Le RTS, le Real-Time Strategy Game.
Ok, voilà. D'accord.
Pardon. Et donc voilà, fait, j'ai vraiment essayé de recréer un peu les mécanismes du RTS, à savoir la production de bugs, la récolte de ressources, tout en gardant un côté quand même suffisamment simple pour éviter des parties à rallonge, mais en gardant le côté amélioration des bâtiments, amélioration des guerriers.
Les bâtiments qui peuvent s'améliorer en question, ce sont uniquement les couveuses.
De toute façon, il n'y a que les couveuses. Et en fait, elles ont également des extensions qui leur permettent d'aller pondre plus loin, de récolter un peu plus loin, etc.
Ok, je vois une poignée de dés aussi.
Alors une poignée de dés, c'est vraiment uniquement pour les combats, qui sont extrêmement simples. Chaque bug a une valeur d'attaque qui détermine en fait le nombre de dés qu'on lance. Le défenseur a une valeur de carapace qui détermine le nombre de dés qu'il lance, et il garde le meilleur, et si c'est plus élevé, le plus élevé l'emporte.
C'est ça. Et ces valeurs se retrouvent sur la couveuse, puisque le bug est sorti de cette couveuse.
Voilà, c'est ça. En fait, chaque couveuse, il y aura des figurines, il y aura trois types de figurines pour chaque camp.
une part couveuse,
des moyennes et des grosses, qui dont les caractéristiques sont incrises, sont inscrites pardon sur la couveuse elle-même, donc sur la carte. On a tout sous les yeux directement.
Donc les bugs vont se déplacer, vont aller chercher des ressources, ils vont les ramener. Il y a des mécanismes.
C'est ça. En fait, un mécanisme de RTS super simple. Hein, on ramène des ressources à la couveuse, on les transforme. Alors après, on peut s'en servir pour faire évoluer les couveuses, on peut s'en servir pour créer de nouveaux bugs, on peut s'en servir pour construire de nouvelles couveuses, et on peut s'en servir enfin pour acheter des cartes de survie qui sont un peu des espèces de coups fourrés, de petites actions interruptes pour justement créer un petit peu de mouvement dans la partie et faire que de temps en temps on peut jouer pendant le tour de l'autre pour répondre, réagir à une de ces actions. Quoi.
Ouais, d'accord. On l'a compris, c'est un jeu de conquête où finalement on va attaquer la partie adverse. Que se passe-t-il quand la partie adverse est finalement en défaite par rapport à l'attaque de l'autre?
Justement, j'ai essayé de réfléchir à un système qui permettait de ne pas éliminer un joueur qui était attaqué, enfin qui était détruit entre guillemets. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque joueur peut avoir plusieurs couveuses en jeu. Tant qu'il a au moins deux couveuses, il continue à jouer. Mais s'il se fait, détruire sa dernière couveuse, en fait, il n'est pas éliminé. La couveuse n'est pas détruite comme les autres pouvaient l'être avant. Il est asservi. C'est-à-dire qu'il passe sous le contrôle, plus ou moins, de la personne qui vient de l'attaquer, qui vient de conquérir sa couveuse. Donc les deux n'ont plus le droit de s'attaquer. Si jamais le maître, on parle de seigneur et de vassal, si jamais le seigneur l'emporte, l'autre a quand même une certaine part de la victoire pour lui, puisqu'il finalement était avec son maître. Mais également, il y a un moyen de s'en sortir. On peut quand même se libérer du joug de celui qui vous a asservi. Donc, il y a quand même une motivation pour rester dans la partie et continuer.
Comment est-ce qu'on s'en libère de ce joug?
Tout simplement en allant conquérir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en prenant la dernière couveuse d'un autre joueur, on se libère de son seigneur et on devient soi-même seigneur d'un nouveau joueur. Quoi.
Ça veut dire que le seigneur...
Des renversements de situation assez drastiques.
Et donc, ça veut dire que le seigneur... Allez, là, ça devient un jeu de tchatch à ce moment-là. Il y a une négociation, le fait que tu attaques par là, j'attaque par là, vu que je suis ton seigneur ou...
Oui et non. Disons que l'intérêt, c'était vraiment de garder la personne en jeu. Parce que le seigneur n'a pas d'ordre à donner à son vassal. En revanche, il peut aller se servir dans ses couveuses, il peut aller prendre des germes. Donc il y a quand même un gros intérêt. D'autant que, on a quand même éliminé un adversaire, dans le sens où c'est un adversaire qui ne vous attaquera plus. En revanche, il faut quand même faire attention à lui, qu'il n'aille pas trop s'approcher des couveuses adverses, parce qu'il peut se retourner contre vous.
D'accord. Et donc ça veut dire que le vassal a le choix d'aller attaquer n'importe qui.
N'importe qui d'autre. Du moment que ce n'est pas un vassal de son seigneur.
Oui, c'est ça. Ouais. Okay. L'idée du jeu a germé de la passion que tu avais et que tu as toujours sans doute sur le RTS et sur les jeux vidéo. Quel est l'intérêt de créer un jeu de plateau qui finalement simule des choses qu'on peut faire dans un jeu vidéo?
C'est autant demander l'intérêt de continuer à faire des jeux de plateau et pas seulement des jeux vidéo. C'est l'intérêt, il est évident, c'est l'intérêt du matériel. Déjà, d'une part, on a toujours plaisir à avoir un joli plateau de jeu, à avoir des figurines. Moi, je sais que, par exemple, si je reprends l'exemple de Full Metal Planet, toutes mes figurines, je les avais peintes. Là, les joueurs pourront s'amuser également à peindre leurs bugs si ça leur fait plaisir. Et puis, le côté convivial, parce qu'on a beau pouvoir jouer online à tous les jeux, à tous les RTS. Malgré tout, il n'y a rien de comparable au plaisir d'une après-midi ou d'une soirée entre amis à jouer autour d'un plateau. Quoi. Donc pour moi, c'était plutôt la question était inverse, c'était comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de jeux qui ont essayé de se rapprocher comme ça du plaisir du RTS pour le transposer finalement au jeu de plateau. Moi, ça me paraissait évident en fait.
Ouais.
J'avais vraiment envie de ça.
Le cerveau de Jérôme Rigal, il bouillonne déjà pour autre chose, pour un autre jeu?
Oui, on a déjà d'autres projets avec Tekken You. Je connais Didier donc depuis très très longtemps.
Didier Poli, hein, donc.
Qui lui-même fourmille d'idées dont il m'abreuve régulièrement et qui font germer toutes sortes d'idées chez moi aussi, donc ça, il n'y a pas de problème.
C'est votre garden party à vous.
Pardon?
C'est votre garden party à vous.
Voilà, c'est exactement ça.
Félicitations, le jeu a l'air vachement intéressant. Il est question de le sortir en septembre apparemment.
Oui, tout à fait. Donc, on s'est dépêché justement d'avoir un proto jouable pour le présenter ici. et on espère que ça fera un petit buzz, un petit bugs même, on va dire.
Parfait. Merci beaucoup, Jérôme, et à bientôt.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.